La médecine ambulatoire hospitalière s'inscrit pleinement dans le virage ambulatoire qu'on a déjà évoqué. C'est une notion qui apparaît dans les années 80 d'un point de vue politique au Canada, dans une circulaire. Et ça apparaît devant la prise de conscience de l'évolution des techniques. Par exemple, en médecine, sur la chimiothérapie, on passe des patients hospitalisés à des HDJ. Maintenant, on parle même de chimiothérapie orale à domicile. Sur des problématiques économiques, en disant, nous étions dans un monde où l'économie avait une croissance importante. En 62, on avait 6,9% de croissance. Aujourd'hui, on est à 1,2% dans les meilleures estimations. Et dans l'évolution des maladies, où il y a cette fameuse transition épidémiologique, où on dit qu'il n'y a plus de maladies aiguës, mais que des maladies chroniques. En fait, c'est un peu, c'est pas du tout à vase clos, et il y a toujours des maladies aiguës, avec des patients qui nécessitent une hospitalisation, mais il y a des prises en charge qui peuvent être transférées en médecine ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, dont on a déjà pas mal parlé, est quelque chose déjà de... stabilisé, mais il n'est pas vraiment stabilisé, mais en tout cas, il est mesurable. On est capable de dire qu'une prise en charge a été faite en hospitalisation complète et qui a été transférée en hospitalisation de jour, ou en tout cas en ambulatoire. Donc c'est ici les chiffres en France, sortis du logiciel VisuChir, développé par ACNAM, qui permet d'avoir un point de vue global, mais aussi très spécifique, par chirurgie, voire même par maladie. Sauf que la chirurgie ambulatoire, enfin son modèle, ne peut pas se transformer de facto à la médecine ambulatoire. Et même hier soir, et on en aura discuté ce matin en arrivant, en fait, la chirurgie ambulatoire est définie par rapport au bloc opératoire. Le patient est hospitalisé pour être opéré, ou le patient et en HDJ pour être opéré. Mais en fait, avant d'être opéré, le patient il a des bilans diagnostiques, il a des bilans d'évaluation, et tout ça se fait aussi en ambulatoire. Vous verrez ça avec Théo Pinette en début d'après-midi, sur son hôpital de jour, avec pas mal de chirurgie. Il y a aussi la notion de terme. Donc il y a le day surgery, en France c'est le chirurgie ambulatoire, les Allemands, je n'ai pas retenu le terme, mais en ont un. Et il y a ce terme outpatient, qui est un terme de 1970, des dictionnaires anglais, qui dit que c'est un patient qui vient à l'hôpital sans y rester la nuit. Et au début de ma thèse, on s'est posé la question de... Au début, on voulait faire du médico-éco. On voulait comparer les parcours, pertinence des soins, et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de cadre, justement, sémantique ou conceptuel pour le faire. Et en lisant des rapports, on s'est rendu compte, par exemple, là, c'est l'OCDE, que... Donc, c'est des rapports qui sont en français et en anglais et traduits par l'institution. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai fait la traduction. Où on identifie le outpatient, et là, ils parlent de soins ambulatoires, mais c'est des outpatients à l'hôpital. Et ils disent que c'est 40% de l'activité hospitalière. Plus loin, on parle d'activité hospitalière et des dépenses hospitalières, où on dissocie le outpatient, service ambulatoire, et service de jour, le daycare. Donc là, on se dit, mince, dans le même rapport, 10 pages plus loin, on parle de la même chose, mais avec des termes différents, et donc on sait plus ce qu'on évalue. Et quand on s'intéresse à l'Union européenne, mais en fait, ils utilisent les mêmes bases de données qu'ils agrègent, et donc les termes utilisés par la Commission européenne et l'OCDE viennent du même endroit, on a le outpatient qui est explicitement pour les soins de ville. Et là, on se dit, on est perdu, on utilise le même mot pour des réalités de soins très différentes, et des patients qui sont aussi très différents. Parce qu'on le sait bien, un patient en ville, enfin sur 1000 patients suivis en ville, il y en a 100 qui finiront à l'hôpital et il y en aura 3 qui finiront en CHU. Donc, c'est des populations très très différentes. Ça nous a amené à ces questions. Comment décrire, structurer et analyser la médecine ambulatoire hospitalière? La première question, ça sera comment le terme outpatient est utilisé dans la littérature. Ça, c'est mon premier article de thèse. La deuxième question, c'est comment proposer une catégorisation de la médecine ambulatoire, toujours dans cet article. Et la troisième question, c'est comment on peut identifier la médecine ambulatoire sur les bases de données hospitalière. Mon premier article, c'est une scoping review. C'est simple, on prend des articles, on se pose une question, on les sélectionne avec une grille de sélection où on va extraire des données de l'article en les lisant, et s'ils répondent à nos critères de sélection, on les prend. On a utilisé la base de données Medline, qui est la base de données la plus fréquemment utilisée par les médecins, qui s'appelle PubMed. C'est l'interaction de la base Medline. Et on a pris aussi des rapports institutionnels, parce qu'on s'est dit, ce qui nous intéresse, c'est la science, mais aussi l'institution, parce que c'est l'institution qui va créer des lois ou essayer de comprendre une activité. En suivant notre méthodologie, on arrive à 987 articles qui ont été inclus et 35 rapports institutionnels. J'ai dû mettre à jour la base de données, donc elle est jusqu'en décembre 2025, et il y a un rapport institutionnel qui est de janvier 2026. Déjà, on s'est posé la question, donc, qu'est-ce que la médecine ambulatoire hospitalière ? Et on est parti d'un postulat simple, c'est un patient qui vient à l'hôpital et qui ne reste pas dormir. On n'a pas inclus la nuitée, parce que justement, ce qu'on voulait vraiment, c'était le patient qui vient sur ses deux jambes et qui en repart. Donc on a défini trois critères, à l'hôpital, en ambulatoire, en médecine, à nouveau, pour ne pas rattacher la chirurgie qui avait déjà toute sa littérature. Sur les articles qui ont sur les articles de notre base de données, il y en a 46% qui ont un usage incorrect du terme outpatient. On va le voir. Le bon usage, donc, comme je vous ai dit, c'est on utilise le terme outpatient, c'est un patient qui vient à l'hôpital, en ambulatoire et sur la journée, qui ne reste pas à dormir. Le mauvais usage, c'est utiliser le terme pour un patient qui ne vient pas à l'hôpital et qui ne reste pas à dormir parce qu'il ne vient pas à l'hôpital. Le non-usage, c'est un patient qui vient à l'hôpital sans y rester dormir, mais dont je n'utilise pas le terme outpatient, comme par exemple le fameux daycare dans le rapport de l'OCDE. Et l'usage mixte, bah alors là, c'est un article qui utilise le terme outpatient pour plusieurs réalités de soins qui sont en ville ou à l'hôpital. Et ce n'est pas que dans les articles scientifiques, il y a aussi ce même usage dans les rapports institutionnels. L'OCDE, par exemple, va avoir des parties spécifiques où ils ont le outpatient pour des consultations de ville et hospitalières. On sait que les coûts du soin sont différents. Une fois qu'on a identifié les articles qui utilisent incorrectement le terme outpatient, on s'est posé la question de savoir s'il y avait des facteurs qui pouvaient potentiellement nous prémunir des articles qui l'utilisaient pas bien. Donc là, c'est des facteurs qu'on avait sélectionné a priori, l'année de publication, en se disant plus c'est récent, mieux ils utilisent le terme. Le pays, en se disant s'ils sont anglo-saxons, ils utilisent mieux le terme. Le niveau du journal, plus il est bien noté, meilleures sont les revues, donc meilleur serait l'usage du terme, ou meilleur serait la clarté du propos, avec cette classification de A à pas de catégorie, A étant la meilleure, et pas de catégorie étant les non classés. Et ensuite, les tags, donc c'est les auteurs qui définissent des mots-clés dans leurs articles, soit c'est manuel, soit c'est automatique, basé sur les indexations des revues. Pour lire ce tableau, il faut regarder cette colonne, les odds ratio. Donc s'il est inférieur à 1, ça veut dire que ça protégerait contre l'usage incorrect. S'il est supérieur à 1, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui est associé à un usage incorrect. Il y a plusieurs types d'analyses, je ne vais pas vous faire un cours de stats, mais l'univariable, c'est on prend chacun des critères, et le multivariable, c'est on prend chacun des critères avec des niveaux d'association statistique. Et il faut s'intéresser aussi à un intervalle de confiance de 95%. S'il y a le 1 dans cet intervalle, ça veut dire que la différence n'est pas significative. On reste sur une étude empirique basée sur de la littérature, donc ce n'est pas du tout une étude clinique qui différencie de manière stricto sensu le décès et le non-décès. Si on s'intéresse à l'année de publication, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire qu'on a pris la médiane de l'année de publication, qui est 2012, et on regarde par rapport à cette date les plus anciens avant 2012 et les plus récents supérieurs à 2012, et on se rend compte qu'il n'y a pas de différence. Donc entre les articles récents et les articles anciens. Sur le pays des auteurs, on se rend compte que par rapport aux auteurs anglais dans lesquels j'ai rajouté l'Irlande, qui est normalement dans l'Union européenne, mais qu'on l'a sorti parce qu'ils ont la même langue native, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence. Une seule différence apparaît sur les pays autres, mais c'est une liste où il y a 100 pays différents et dans lequel il y a des pays où il n'y a qu'un seul article qui est soit classé correct ou incorrect. Donc ça fausse ce résultat. La catégorie de journal, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence, sauf peut-être sur les journaux non catégorisés, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que les journaux de rang A n'ont pas une meilleure utilisation que les autres journaux. Et le dernier terme, qui est l'identification du terme outpatient par les auteurs ou par un système automatique, qui est le mesh term sur Medline, on se rend compte que là, effectivement, ça peut aider à se dire que cet article utilise bien le terme. On a fait ça sur la littérature grise, et il y a exactement les mêmes résultats, mais là, on n'a pas utilisé le même algorithme de sélection, donc on a une sélection qui est très très subjective. Mais ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y avait plusieurs typologies de pays, il y avait des organisations privées comme publiques, donc même les fournisseurs de logiciels pour les hôpitaux de jour ou de médecine ambulatoire hospitalière aux États-Unis ont une mauvaise catégorisation de cette activité hospitalière, où ils vont mélanger plusieurs typologies d'activités. Les niveaux d'institutions, donc ça reprend un peu les niveaux des catégories, à l'échelle du pays, à l'échelle d'union comme l'Union européenne et à l'échelle internationale comme l'OMS ou l'OCDE. Et ici, c'est l'usage des termes qu'on retrouve, un usage correct, un usage incorrect, et dans l'usage incorrect, le mauvais usage, le non-usage et l'usage mixte. Donc, question numéro 1, comment le terme outpatient est-il utilisé dans la littérature? De manière très éparse, comme on l'a vu dans les deux premières présentations. Donc, il n'y a pas de cadre conceptuel. Maintenant, on se pose cette deuxième question, c'est comment on peut catégoriser la médecine ambulatoire hospitalière? On s'est basé sur notre pratique, mais aussi sur la littérature, et on est arrivé à une nomenclature, alors c'est une nomenclature exploratoire, qui se veut assez simple. C'est-à-dire, on se pose d'abord la question, est-ce que le soin a lieu à l'hôpital? Sinon, c'est à l'extérieur de l'hôpital. Est-ce que le soin a lieu le même jour, c'est-à-dire dans la même temporalité? Sinon, c'est un patient qui est inpatient, c'est-à-dire il est hospitalisé. Donc là-dedans, on catégorise tous les patients qui restent dans un lit dormir à l'hôpital, comme l'UHCD. Est-ce que le patient est programmé? Donc là, on va rentrer dans les catégories organisationnelles au sein de l'hôpital. Est-ce qu'il est programmé? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'attend? Est-ce qu'il y a une secrétaire qui a dû mettre un patient sur un planning de rendez-vous? Sinon, c'est un patient qui arrive aux urgences. Et aux urgences, le patient il rencontre un agent administratif et c'est tout. Après, il va rentrer dans le parcours de soins, qui va être de plus ou moins complexe, bien évidemment, mais c'est vraiment cette interaction avec l'hôpital et le niveau organisationnel. La deuxième question, c'est est-ce que le patient a besoin d'être coordonné? C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir plusieurs rendez-vous le même jour pour tout optimiser, que ce soit sur une demi-journée, soit sur une journée complète? S'il n'a pas besoin d'une coordination, ça veut dire qu'il vient pour un seul rendez-vous. Il y a un agent administratif qui rentre le patient dans la base de données et il y a un agent de secrétariat qui rentre le patient dans un planning de rendez-vous. Et ça peut être le jour même, une heure avant ou la veille, voire trois mois plus tôt. Et donc ça, c'est les consultations. Ensuite, s'il doit être coordonné, est-ce qu'il a besoin d'une surveillance infirmière? S'il n'a pas besoin de surveillance infirmière, c'est-à-dire que le patient est pleinement autonome dans sa prise en charge, soit seul, soit avec un accompagnant, à ce moment-là, on parle de parcours coordonné de soins externes. Le patient vient pour plusieurs rendez-vous, tout a été coordonné par une IDEC ou une programmatrice, et à ce moment-là, il vit sa vie dans l'hôpital, et à un moment donné, il a une synthèse médicale pour conclure. Et en revanche, s'il a besoin d'être surveillé, là, on rentre dans l'hôpital de jour, qui est la structure la plus complexe de prise en charge, parce que c'est soit un traitement, soit une prise en charge de patient qui est lui-même compliqué parce qu'il a besoin d'un encadrement. Donc ça, c'est, vous avez ma référence, c'est mon premier article. On est en reviewing dans la revue Health Policy. Donc la question numéro 2, c'est est-ce qu'on peut catégoriser l'activité de médecine ambulatoire hospitalière sur les mêmes critères qu'on avait sur notre revue de littérature, qui était le patient qui vient à l'hôpital pour une prise en charge médicale en ambulatoire? La réponse est oui. Mais ça reste une nomenclature exploratoire. Ça nécessite d'autres types d'études, mais en tout cas, c'est un cadre conceptuel qui nous a permis de poser le sujet. Maintenant, la troisième question qui nous intéresse, c'est comment on peut identifier le patient sur les bases de données hospitalières. Et donc, on s'est dit, on va appliquer la nomenclature qu'on a de la littérature sur notre base de données. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à la base de données administrative du GHU Nord, donc qui réunit 5 hôpitaux à la PHP, et c'est uniquement les bases de données que je voulais, c'était pas de PMSI, d'abord identifier d'un point de vue administratif où est le patient. Quand on applique cette nomenclature, on a Donc l'hospitalisation complète et la médecine ambulatoire hospitalière. Jusque-là, c'est plutôt facile. Et l'hospitalisation complète inclut donc les patients qui viennent aux urgences et qui sont hospitalisés au moins une nuit, parce que d'un point de vue médical, ça ne va pas être les mêmes patients. À un moment donné, il y a un médecin qui s'est posé la question qu'il fallait au moins le garder une nuit, et donc ça rentrait dans un cadre. Et après, d'un point de vue de facturation, une place en UHCD est beaucoup plus coûteuse qu'une place en consultation ou en HDJ. Enfin, peut-être que l'UHCD et HDJ, faudrait voir. Et la médecine ambulatoire hospitalière, ça inclut cette nomenclature. Une fois qu'on a bien structuré notre base de données, on a cette ventilation sur le GHU Nord, où on a l'hospitalisation complète, on a l'HDS qui ressort, donc les hospitalisations de semaine qui sont parfois utilisées parce que vues comme plus rentables qu'un hôpital de jour, ou en tout cas c'est une activité programmée à l'hôpital qui peut potentiellement être programmée sur un seul jour. Et donc ça peut être une source de transfert de l'hospitalisation complète à une hospitalisation de jour, par exemple. On a les hôpitaux de jour, bien évidemment. On a le parcours coordonné de soins externes. Alors là, vous ne le voyez pas apparaître, parce que c'est très simple. Sur la base de données du GHU Nord, on a 150 patients sur l'année 2022. Pourquoi je l'ai mis? C'est parce que c'est un parcours de soins qui naissait à l'hôpital Louis-Maurier en médecine vasculaire et qu'on a aussi fait évoluer dans la plateforme ambulatoire pour la gériatrie, pour la pneumologie et la médecine interne depuis janvier 2025. Le patient vient à l'hôpital, il est 100% autonome, il a tous ses soins qui sont coordonnés par la programmatrice de l'hôpital de jour et il a une synthèse médicale à la fin de la journée. Il fait sa vie dans ses rendez-vous et il n'a pas besoin de surveillance infirmière parce que c'est des bilans de maladies chroniques, par exemple la drépanocytose. C'est des patients qui viennent pour des diagnostics, mais qui sont eux aussi très autonomes dans leur prise en charge. Donc on n'a pas besoin d'avoir une surveillance infirmière. Ça libère des lits d'hôpitaux de jour pour des patients qui en ont besoin. Patients déments, patients non autonomes, patients handicapés, patients présentant un handicap, dont la consultation handiconsulte a été créée à l'hôpital Louis-Maurier en septembre, qui va être présenté cet après-midi. Et on a la consultation, bien évidemment, grosse part de l'activité hospitalière, et les consultations non programmées, le patient qui vient aux urgences sans y rester. Dans la base de données, on peut aller encore plus loin. Je ne vous les présente pas là, mais on part donc de cette catégorisation que vous avez sur votre gauche. Ensuite, on peut réidentifier ce qu'on sous-entend dans les catégories, et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut le faire par spécialité. On peut le faire par spécialité, médecine vasculaire, médecine interne, gastro-entérologie, psychiatrie, chirurgie, où l'on veut, parce que bien évidemment, on a catégorisé les services de chirurgie. Pourquoi la spécialité nous intéresse? C'est parce qu'on s'est basé sur les unités d'hospitalisation qui sont les UH dans les hôpitaux et dont on est certain du lieu de prise en charge. Et on est certain aussi de la manière dont on a de les prendre en charge. Parce que d'un point de vue médical, la chefferie de service impose aussi la manière de prendre en charge. Donc ça nous a permis un peu de reclassifier tout ça et donc on peut évaluer les différents types d'activités en médecine ambulatoire hospitalière en fonction de la spécialité. Là par exemple, on a la pneumologie, on a la médecine interne et on a la gériatrie. Et après, je ne vous les présente pas, mais on peut se poser d'autres questions sur ce creux en 2020, Covid. Comment on peut se poser des questions sur l'organisation des soins. À l'hôpital Louis-Maurier, on est en structure de plateforme ambulatoire. L'idée, c'était de fermer le service aux patients Covid, bien évidemment. En revanche, maintenir l'activité d'oncologie. Et donc, là, tous les services ont moins 15% d'activité sur la plateforme. En hôpital de jour, sur la plateforme, c'était moins 3%. Donc, c'était aussi rendre accessible l'hôpital aux patients qui en ont besoin au bon moment, et en ayant cette logique du besoin médical et de l'organisation qui s'en rattache. Donc la troisième question, c'est oui, on peut recatégoriser la médecine ambulatoire hospitalière. Les apports, ça clarifie le concept. La nomenclature, elle est exploratoire sur les critères organisationnels. L'applicabilité, elle a été démontrée sur nos données hospitalières au GHU Nord, mais les limites, c'est que la nomenclature reste à valider par des experts, par du Delphi et aussi par des bases de données mais plus larges que le simple GHU Nord et la consolidation donc des données hospitalières. C'est bien pour la recherche, ça offre un cadre conceptuel pour des travaux transversaux. Ça offre des bases pour des études multicentriques et internationales parce qu'on sort de la logique de la spécialité, on sort de la logique de la langue, on se base vraiment sur des critères tangibles qui sont la place du soin, le temps du soin et pourquoi le patient vient à l'hôpital. L'analyse d'activité, donc bien évidemment pour l'aide au pilotage, et l'analyse médico-économique qui viendrait ensuite, mais la démission reste un prérequis pour ces analyses. Merci de votre attention. Thank you.